tout de suite le débat, la semaine de la COP23, le deuxième avertissement des scientifiques. Il va falloir changer radicalement de mode de vie.
Il faut savoir juste essayer d'expliquer pourquoi ça remonte.
Et donc
N'arrête pas l'écho. Le débat.
La communauté scientifique nous envoie des messages d'alerte. Le seuil de l'irréversible a été franchi.
Emmanuel Macron, lors de la COP23.
Les pays riches ont imposé au monde l'or universel. Aujourd'hui, il leur est interdit d'imposer au monde leur propre tragédie.
Plus de 15 000 scientifiques de 184 pays signent l'avertissement à l'humanité sur l'état de la planète. Il sera bientôt trop tard, disent les chercheurs.
Deuxième pollueur de la planète, les États-Unis.
Oui. Mais qu'est-ce qu'ils polluent ?
En faisant du pétrole, en faisant du gaz de schiste, en ayant des voitures surdimensionnées, en ayant des frigidaires qui sont trois fois plus gros que les nôtres.
Pascal Canfin, directeur général de WWF France.
Si tout le monde vivait comme les Américains, il faudrait plus de 5 planètes.
En 25 ans, la population mondiale a augmenté de 35%, une pression supplémentaire sur les ressources naturelles.
Il y a 1 milliard d'humains qui habitent dans les pays développés.
Gilles Pison, démographe.
C'est ce milliard-là qui, à la limite, pourrait être trop nombreux.
C'est bien joli, nous, bien nourris, etc., de faire des grandes proclamations.
Pierre Rabhi, essayiste.
Mais vous savez, un être humain dans le monde du développement, il consomme 4 à 5 fois ce qui lui est nécessaire. C'est le superflu.
Dire en général la population de la Terre augmente, c'est vrai, mais ça masque le fait qu'elle augmente surtout dans quelques petites régions.
Hervé Lebras, démographe.
Je pense que dans un certain nombre de pays, et c'est le cas de la Chine, on va au contraire se plaindre que la population diminue.
Les délégués de la 23e conférence climat viennent de se séparer au petit matin. À Beaune, pas de progrès, énorme, notable. Et donc cette semaine, on a eu le signal d'alarme de 15 000 scientifiques. Le précédent avertissement, c'était il y a 25 ans au sommet de Rio. Emmanuel Lechypre, je me tourne vers vous. Que retenez-vous de l'avertissement des 15 000 à l'humanité ?
Cet avertissement, il m'a mis assez mal à l'aise en fait. Alors si le but c'est de faire de la com, bon c'est assez réussi parce que c'est spectaculaire de dire qu'on est trop nombreux sur Terre. Après moi je pense que prendre le problème par ce bout-là, c'est le prendre par le plus mauvais en fait des bouts. D'abord ce problème démographique. Alors effectivement la situation dont on hérite est problématique. Plus 35% d'humains sur Terre depuis 25 ans. D'accord, mais quand on regarde aujourd'hui quelles sont les tendances lourdes, qu'est-ce qu'on voit ? On voit d'abord qu'il y a beaucoup de pays qui sont très peuplés, mais dans ces pays les plus peuplé, la natalité est faible. Dans des pays comme la Chine, comme l'Inde, vous êtes à peu près à 2 enfants par femme, pas plus. Et comme le disait Hervé Lebras dans les sons qu'on a entendus, il y a que 2 régions dans lesquelles on a aujourd'hui dans le monde des taux de natalité qui sont très élevés. C'est l'Afrique subsaharienne et c'est effectivement la bande Pakistan, Inde, etc.
Donc vous
Mais
trouvez
même dans tout le reste du monde, il y a à peu près moins de 2 enfants par femme. Donc la tendance à la baisse au ralentissement de la dynamique démographique, elle est déjà enclenchée. Et pourquoi je dis que c'est la pire façon d'aborder les problèmes ? D'abord parce que le problème, il est surtout qualitatif. C'est plus qu'est-ce qu'on fait de nos habitudes. Et ça, ça n'est pas résolu par le problème quantitatif. Et puis, toute cette problématique, genre, on va manquer de ressources, on va avoir faim, etc. Mais n'oubliez jamais que la faim n'est pas un problème de ressources disponibles sur le plan alimentaire.
C'est un problème d'allocation,
c'est un problème de gestion, c'est un problème politique. Voilà.
Alors, Christian Chavagnier, vous l'avez lu également, cet appel des 15 000. Que retenez-vous, vous, de votre...
Je reviendrai sur la démographie après, moi. Mais sur le message général, c'est plus attention, on va dans le mur. C'est on est dans le mur. La perspective de réchauffement de 2 degrés de la planète par rapport à la période industrielle paraît d'ores et déjà perdu. Et aujourd'hui, ce que nous disent les scientifiques, c'est que les États, ils ont fixé ni un cap d'émission des gaz à effet de serre qui réchauffe la planète, ni même un horizon de maîtrise. C'est pour ça qu'ils poussent un cri d'alerte.
Il sera bientôt trop tard.
L'objectif de 2 degrés qui est fixé par les scientifiques, il semble perdu aujourd'hui. Donc est-ce qu'on peut essayer de retrouver une probabilité de s'y ramener ? Et sur les 30 ans à venir, l'humanité va payer de plus en plus cher les conséquences dans les décennies qui viennent. Il faut agir concrètement et rapidement. Du coup, Le Monde, et le journal Le Monde qui a publié cet appel des scientifiques, à côté, ils ont mis un ensemble de petits graphes qui répond au bilan des scientifiques. Quand vous regardez ces 2 pages, vous êtes complètement affolé. La couche d'ozone, on ne l'abîme plus, mais elle reste détériorée. Les réserves d'eau douce, qu'est-ce qu'on va boire demain en chute libre ? Les réserves halieutiques, pareil, de moins en moins de poissons. Les zones mortes maritimes, c'est-à-dire les endroits où il n'y a plus d'oxygène tellement on a mis de cochonneries dans la mer. En forte hausse, la déforestation accélérée, la biodiversité en chute libre. On est en train vraiment de tuer les différentes espèces vivantes sur la planète et l'objectif de dépassement, les 2 degrés de température complètement dépassés. Attention, c'est un vrai cri d'alerte. Pour nous, j'espère que dans une trentaine d'années, on sera encore là. Pour nos enfants, c'est sûr.
Il faut repenser radicalement nos modes de vie. C'est aussi dans ce cri d'alerte, Christian Chavagneux. Ça, c'était pour le panorama. Hein, donc, ils nous disent, on va dans le mur, on y est presque. Est-ce que, comme Emmanuel Le Chip, vous retenez l'idée que la solution, c'est de remédier à cette pression démographique?
Moi, j'ai vraiment été... Ça m'a fait un peu peur, je dois dire. Quand je suis arrivé au moment de ce débat, de texte des
Emmanuel scientifiques... Emmanuel aussi, je le vois. Oui,
et je cite, « La croissance démographique rapide et continue est l'un des principaux facteurs des menaces environnementales. Il faut donc, je recite, limiter adéquatement la croissance de la population. » Honnêtement, ça me fait un peu peur.
C'est un peu autoritaire.
C'est un peu autoritaire. C'est le grand retour de Malthus. Vous savez, il publie en 1798 son essai sur le principe de la population, dans lequel il parlait pas d'environnement, il parlait simplement de nourriture. Il disait, la progression de la population va beaucoup plus vite que la progression de la nourriture. Donc demain, il va y avoir des famines. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut réduire la fécondité. Alors, le père Malthus, évidemment, lui disait, il faut reculer l'âge du mariage, faut avoir recours à l'abstinence sexuelle, il faut arrêter d'aider les pauvres. Parce que plus vous aidez les pauvres, plus se reproduisent, ma pauvre dame, donc il faut arrêter de les reproduire. Heureusement...
Il y a quand même un peu de ça, Christian, dans cet appel.
C'est ce qui m'a fait un peu peur. Heureusement, quand même, la réalité n'a pas été malthusienne. On a réussi ce qu'on appelle la transition démographique, c'est-à-dire avoir beaucoup moins de naissances. Pourquoi? Parce qu'avec les progrès qu'on a fait sur la médecine et tout ça, on a réduit le nombre de morts, et en réduisant le nombre de morts, ça a incité les femmes à réduire le nombre de naissances de plus en plus éduquées, elles vont à l'école, tout ça. Bon, donc, du coup, pas si simple. Pourquoi? Parce que moi, ce qui me gêne dans le rapport des scientifiques, c'est qu'il résonne en termes absolus. Tant de milliards de population aujourd'hui,
7 milliards, 600 millions d'êtres humains sur la planète.
Donc juste en termes absolus, alors qu'il faut raisonner en termes relatifs au développement économique. Le constat, il est clair, il est fait par Yael Giraud, l'économiste en chef de l'ALD,
l'Association française de développement.
Et c'est facile à retenir, au niveau mondial, les 10% les plus riches sont à l'origine de la moitié des émissions de gaz à effet de serre, la moitié des plus pauvres sont à l'origine de 10% des émissions de gaz à effet de serre. Donc, il ne faut pas réduire le nombre de personnes de manière absolue, il faut réduire le train de vie des riches. C'est ça que les scientifiques auraient dû nous dire.
Emmanuel Le Chypre.
C'est ça qui est gênant dans cet appel, finalement, à une démographie beaucoup plus maîtrisée, c'est que quelque part, on dit quand même un petit peu que c'est la faute des pauvres, alors que c'est absolument pas le cas.
Ah non, c'est la faute des riches.
Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que l'appel qui dit qu'il faut réduire la démographie, quelque part,
absolument,
c'est dire les pays qui font trop d'enfants, va falloir qu'ils se calment un peu, entre guillemets. Et je trouve que c'est quand même une façon aussi de reporter considérablement le fardeau de nos errements sur, justement, les générations futures ou sur ceux qui vont venir. Parce que ce qui va se passer, c'est que la transition démographique, quand elle va se faire dans ces pays-là, mécaniquement, elle va réduire la natalité et la démographie. Le problème, c'est effectivement cette génération aujourd'hui de gens qui sont très pauvres et dont il va bien falloir gérer finalement les difficultés. Donc oui, c'est un problème, mais je trouve que cet appel sur la démographie, il ne cible pas les bons problèmes, et deux, il arrive surtout beaucoup trop tard, puisqu'on voit que le ralentissement démographique, il est déjà enclenché. Si vous prenez les hypothèses des Nations Unies, si vous restez à 2,1 enfants par femme, on culmine à peu près en population mondiale à 2100, si vous tombez à 1,6, vous avez déjà un ralentissement, une diminution de la population mondiale dès 2075. Et ce sont des forces d'inertie tellement longues que de toute façon, je ne comprends pas bien le sens de cette proposition.
Je crois que vous êtes d'accord tous les deux sur l'idée forte là, qu'il faudrait arrêter de faire des enfants ou faire beaucoup moins d'enfants. Finalement, c'est déjà un peu dépassé, un peu derrière nous. Christian Chavagneux, il y a autre chose, il y a d'autres pistes quand même pour sauver la planète.
Il y a d'autres pistes. On sait aujourd'hui que si on veut accroître la probabilité de rester à plus de degrés de température au niveau mondial par rapport à la révolution industrielle, il faut émettre à peu près moins de 1000 gigatonnes de CO2. Au rythme actuel, c'est-à-dire qu'il nous reste 30 ans. Donc qu'est-ce qu'on fait pour répartir ce budget carbone sur les 30 ans qui viennent? Est-ce qu'on doit le répartir entre États ou entre acteurs privés? Entre États, sur quels critères demande Yael Giraud? Est-ce que c'est le PIB? C'est le PIB par habitant? C'est les émissions passées? C'est les émissions actuelles? Si on prend plusieurs critères, comment on les pondère, etc. C'est là-dessus, c'est ça le fond du problème.
Ça, ce sont des questions d'économistes.
Ce sont des questions complètement d'économistes sur lesquelles ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Du coup, les grands États ont dit, puisque nous, on n'arrive pas à se mettre d'accord, on va répartir ce quota carbone qui nous reste à dépenser pour les 30 années, entre acteurs privés. Donc on va faire un marché des droits à polluer. Je pollue moins, je vends mon droit à polluer à ceux qui polluent plus, et puis on fait un marché avec le prix du carbone qui va pas cesser de monter, le prix du droit à polluer qui va monter. À un moment donné, ceux qui polluent vont dire bah, c'est trop cher, il faut que je dépollue. Et donc on a la solution magiquement par le marché. Malheureusement, ça marche pas, parce que d'abord il faut que les États se fixent un objectif de réduction des gaz et d'émissions à effet de serre pour après distribuer le nombre adéquat de droits à polluer. Or, je reviens à mon point précédent, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Après, il faudrait un contrôle mondial. Une entreprise qui dit, j'avais le droit à une tonne, j'en ai émis que la moitié, je vends le reste. Mais il faut bien contrôler qu'elle a bien émis que la moitié, qu'elle a le droit de vendre le reste. En fait, c'est une usine à gaz de contrôle étatique, national, régional et mondial, qui est absolument faramineux. Puis ensuite, il faudrait un prix adéquat de ce droit à polluer pour désinciter les pollueurs. Aujourd'hui, on n'a pas ce prix adéquat.
On est toujours dans le chantier du prix carbone. On n'y arrive pas. Emmanuel Le Chypre, il y a aussi l'idée, donc il y a cette idée de prix carbone, et il y a aussi l'idée qu'il faut changer de mode de vie,
ouais.
La consommation...
Totalement, il y a plusieurs pistes. Il y a ce qui concerne le mode de vie sur ce qu'on consomme. Alors, on sait déjà qu'il va falloir dépenser beaucoup moins d'énergie, mais on voit bien que dans tous les scénarios de transition énergétique, même les scénarios qui vont vers le plus d'énergie renouvelable, c'est impossible sans modification profonde des modes de vie. Donc, on voit bien que sur la transition, par exemple, de sources d'énergie, on aura beaucoup de mal à se passer du nucléaire. Moi, je pense que les débats, il faut les gérer par priorité. C'est-à-dire que si on considère que la priorité, c'est de décarboner, je ne vois pas comment c'est possible aujourd'hui, et on y reviendra peut-être, de décarboner sans le nucléaire. Mais si vous prenez tous les scénarios, par exemple, sur les changements d'habitude de consommation, prenez, par exemple, même le scénario qui est fait par Mégawatt en France sur qu'est-ce qu'il faudrait. Bon, on sait qu'il faudrait à peu près, on peut vivre de la même façon à peu près en consommant 20% d'énergie en moins grâce aux économies d'énergie. Mais dans tous les scénarios pour tenir les objectifs, il faut réduire de 50% au moins notre consommation d'énergie. Et ça veut dire des logements plus petits, ça veut dire des vrais changements d'habitude sur ce qu'on achète, ce qu'on mange, ce qu'on
moins de viande,
on s'habille, etc.
Vous parliez du nucléaire à l'instant. Je voudrais qu'on regarde le cas spécifique de la France, puisque le gouvernement a annoncé qu'il ne pourra pas tenir son engagement sur la part du nucléaire dans le mix énergétique d'ici 2025. Ça devait baisser de 75 à 50%. Eh bien, le ministre de la Transition écologique, Nicolas Hulot, renonce à s'acharner sur la date.
Il sera difficile de tenir ce calendrier 2025, sauf à relancer la production d'électricité à base d'énergie fossile, alors que nous avons pris la décision justement, et nous la maintenons, de fermer d'ici 2022 des centrales à charbon pour lutter contre le changement climatique. Si l'on veut maintenir la date de 2025 pour ramener dans le mix énergétique le nucléaire à 50%, ça se fera au détriment de nos objectifs climatiques. Ça se fera au détriment de la fermeture des centrales à charbon. Et probablement que si on voulait s'acharner sur cette date, il faudrait peut-être même rouvrir d'autres centrales thermiques.
Christian Chavagneux, je voudrais votre avis éclairé. Est-ce que c'est...
C'est le cas de dire. Hein.
Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est la raison qui parle quand on annonce à 2025 pour baisser la part du nucléaire dans le mix énergétique? Ou est-ce que c'est de l'intox, comme on peut aussi le voir sur Internet? Il y a des gens qui sont extrêmement indignés.
Il faut rappeler d'abord une spécificité française. En 2016, le nucléaire, c'est 72,3% de notre production d'électricité. Le deuxième pays au monde qui utilise le nucléaire, c'est la Slovaquie avec 54%. Donc on est vraiment hyper dépendant du nucléaire. Revenir à 50% d'énergie nucléaire dans notre mix de production électrique, c'est redevenir un pays à peu près normal, dans le haut de la fourchette, mais normal par rapport aux autres. Alors, Hulot, il abandonne la date de 2025. Bon, au moment où l'engagement a été pris, sous Hollande, on n'a rien fait pour avancer. Donc, il démarre de zéro. 2025, c'est demain matin. Huit ans pour réduire la part du nucléaire d'un côté, plus réduire la part du charbon, annuler le charbon à 2022, le gouvernement s'est engagé. Plus pas de réouverture de centrales thermiques, le gouvernement s'est engagé à ça. Plus gérer socialement la baisse du nucléaire, on ne peut pas tenir les quatre ensemble. Donc il a dit, si je ne peux pas tenir les quatre ensemble, j'abandonne la date de 2025.
Il se donne 2025. 10 ans de plus ou 5-10 ans de plus.
Au moins 10 ans de plus, je pense, de 2035. Il a déçu, pourquoi? Parce qu'en débranchant la date de 2025, il n'a pas dit, ce sera forcément 2035 et on va mettre le paquet pour essayer de réduire la part du nucléaire. Il a très mal géré la com, et dans les gens qui sont autour de lui, quand on parle parle avec eux, il est d'accord, je crois, Nicolas Hulot, il a loupé la séquence politique, on va dire. Mais sur le fond du raisonnement économique, je pense qu'il n'a pas complètement tort. Tout ce qui se dit dans les couloirs, c'est quand même c'est que le Premier ministre et le Président de la République ont dit à Hulot, si tu n'annonces pas un report, on achète deux EPR. Et donc Hulot, il a dealé, je reporte la date, mais il n'y aura pas d'EPR supplémentaire en France, donc plus de développement de capacité nucléaire. EDF fait une pression d'enfer. EDF n'a plus de clients aujourd'hui. On entend tous les grands pays qui achètent des Airbus, mais qui aujourd'hui vous dit qu'il va acheter des centrales nucléaires? Plus personne. Donc EDF fait un lobby d'enfer pour avoir ça. On a reculé la date si c'est vraiment pour s'engager. Et jeudi soir, si vous avez regardé la conférence de presse de Nicolas Hulot après la COP23, il a dit « Nous allons fermer des réacteurs ». Donc allez, je lui donne le crédit, il va s'engager.
Emmanuel Le Chip, je vous ai vu acquiescer.
Oui, parce que cette espèce de d'hystérie autour du nucléaire en France, il faut quand même la replacer à sa juste mesure. Christian dit, le nucléaire, c'est 75% de notre électricité. Oui, mais sauf que l'électricité, c'est moins du quart de toute l'énergie qu'on consomme en France. Ça veut dire que, admettons qu'on résolve ce problème du nucléaire et qu'on se débarrasse du nucléaire, on n'aura résolu qu'un quart de nos problèmes énergétiques.
C'est déjà pas mal, hein.
Oui, mais voyons par rapport à tous les autres enjeux qui sont ceux qu'on a évoqués tout à l'heure.
Et c'est peut-être appelé à augmenter quand même, Emmanuel, si on met en place les voitures électriques,
oui,
tout ça.
Parce que forcément, après, de toute façon, moi je pense que tous les scénarios qu'on a sur les énergies renouvelables vont décevoir, d'abord parce que on part de très bas, parce que ces énergies ont beaucoup plus d'inconvénients que ce qu'on veut bien nous dire.
Non, ça c'est pas vrai.
Mais attends, si, bien sûr que si. Je veux dire, leur bilan énergétique est bien plus mauvais que ce qu'on dit. En termes de leur impact sur l'environnement est bien plus mauvais que ce qu'on dit. Le photovoltaïque, par exemple, il a un impact sur l'environnement qui est quasiment nul compte tenu de ce qu'il faut pour le produire. Il faut bien voir que ce sont des énergies qui produisent peu. Parce que la grande différence, si vous voulez, entre les énergies carbonées, le nucléaire, et ces énergies renouvelables, c'est que le fuel, le pétrole, le charbon, le nucléaire, quand vous avez besoin, vous appuyez sur le bouton, ce qui n'est absolument pas le cas pour le photovoltaïque et pour le solaire. Et ça génère des coûts qui sont absolument considérables. Donc, allons-y tranquillement, mais on n'y arrivera pas. Et donc, la vraie priorité, moi je pense que c'est de se focaliser sur le reste, c'est-à-dire grosso modo, tout ce qui est transport et tout ce qui est logement, où là effectivement, il y a des efforts absolument considérables à faire en matière d'efficacité énergétique des bâtiments, en matière d'efficacité énergétique des voitures. Et là, pour le coup, vous avez une dynamique économique qui peut être intéressante parce que là, ça crée des emplois, etc. Mais ce débat sur le nucléaire, Christian a raison, il est effectivement pollué par l'EPR, qui est quand même le délire le plus dingue de tous les ingénieurs d'EDF. Et on l'a fait pourquoi l'EPR? Tout simplement parce qu'il y avait une génération d'ingénieurs chez EDF qui n'avaient pas construit de centrale, alors que son coût est beaucoup plus élevé. C'est cher, ça produit de l'électricité trop coûteuse et manque de bol. C'est pas une bonne idée du tout, cette EPR. Donc tant mieux si on l'abandonne.
On referme là le dossier climat qui, de toute façon, nous rattrapera.